de Conte une heure d'histoire en direct sur Canal B. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de direct, ma foi. Bah écoute, hein, c'est parti, on y va. Enfin du moins, on va essayer. Salut à vous toutes et à vous tous, c'est Doé, bien qui vous raconte une histoire aujourd'hui. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? Je vais même en raconter plusieurs. Enfin non, pas tout à fait non plus. Enfin bref, c'est une heure de direct pour les 40 ans de Canal B. Et aujourd'hui, j'ai décidé deux choses. Bah, de vous raconter une histoire, une grande histoire inédite qui s'appelle Gigotte. Et une histoire que j'ai écrite rien que pour vous. Et puis, juste avant, on va écouter le maître Henri Gougo qui... nous parle du conte, qui nous parle de plein de choses. Henri Gougo, c'est un maître du conte, c'est un gars qui vit là-dedans, qui a publié plein de bouquins, et il parle très bien du conte. Et pour commencer cette histoire, donc on va dire que c'est un peu plus consacré aux adultes, oui on va dire ça, eh bien on va parler de ce que c'est que le conte un tout petit peu. Tiens, c'est parti. J'imagine dans une clairière de la forêt du temps, une troupe de pauvres gens accroupis au seuil d'une grotte. C'est le crépuscule. Le soleil vient de disparaître derrière les arbres. Comme chaque soir, ces hommes, ces femmes s'inquiètent. Et si cette fois il ne revenait pas, ce père lumineux qui tous les matins nous réveille, si cet être prodigieux qui fait toute chose vivante nous abandonnait à la nuit. J'imagine au milieu d'eux une mère. Elle s'effraie, elle aussi. Elle serre contre elle son enfant. Il gêne, il a froid. Et voilà que ce soir-là, l'angoisse de ce fils, dans l'obscurité où ils sont, lui, est soudain plus insupportable que celle qu'elle-même éprouve. C'est ainsi que lui vient l'amour, l'oubli de soi dans le souci de l'autre. Et l'amour lui inspire la première berceuse, le premier conte, la première parole dite pour attendrir la nuit, pour tempérer la peur. Sa voix n'est qu'un murmure imprécis mais rassurant, chaotant mais brave. Elle ne sait pas. Personne ne sait que cette parole chantonnée à l'oreille de son enfant est le premier surgissement de la source qui deviendra un jour le vaste fleuve de toutes les littératures humaines. Rien de plus humble qu'un conte, rien de plus anodin, si l'on s'en réfère à la définition du dictionnaire. Récit d'aventure imaginaire destiné à amuser ou à instruire en amusant. C'est un peu court. De quoi s'agit-il en vérité ? D'histoires plus ou moins brèves qui ne se préoccupent guère de ce que l'on appelle communément la réalité et qui n'est peut-être après tout que l'apparence des choses. D'histoires vagabondes, sans auteur identifiable, sans origine précise. D'histoires qui ont traversé des siècles, les millénaires, même sans bruit, sans effet mesurable sur le destin des peuples, portées jusqu'aux abords de nos temps modernes par la seule parole humaine. De fait, la définition du dictionnaire ne témoigne que de la méconnaissance, sinon du mépris dans lequel les lettrés tiennent ces histoires-là. Sornettes, disent-ils, balivernes déraisonnables. Et pourtant, imaginez, la plus ancienne mention écrite du conte des deux frères dont on a répertorié en Europe une quarantaine de versions a été dénichée sur un papyrus égyptien datant de la 19e dynastie, environ 1300 avant notre ère. Et le premier texte où apparaît un ancêtre de Cendrillon fut écrit en Chine au 8e siècle. Question. Pendant que ces contes-là et bien d'autres traversaient allègrement les pestes, les grandes invasions, les guerres, les révolutions, les monts et les mers portés par presque rien la parole des gens, voyageurs, nomades, vagabonds, marchands, combien d'œuvres réputées immortelles se perdaient corps et biens dans les brumes du temps ? Comment ont-elles fait pour subsister, pour demeurer vivantes ces histoires imaginaires destinées à instruire en amusant? Et pourquoi elles, si négligeables, ne se sont-elles pas égarées? Les Romains, croyaient au fatum librorum, au destin des livres. Tant qu'une œuvre est nourricière, pensaient-ils, elle dure, quelles que soient les difficultés de son cheminement. Les contes ont duré, ils sont là, toujours présents dans notre drôle de monde. C'est donc qu'ils ont encore à nous apprendre ou plutôt à nourrir en nous quelque chose d'essentiel, de vital peut-être. je pense à la parole de Patrice de la Tour du Pin. Les pays qui n'ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid. Je pense aussi à cette génération d'histoire métisse née du mariage des contes amérindiens et de ceux africains portés jusqu'aux Amériques par les esclaves noirs. On sait peu que ces gens-là, malgré les tourments et les massacres qu'ils subissaient, malgré leur dénuement, malgré leur détresse, ont tout de même trouvé le temps, la force, le désir de se raconter leurs contes, leurs vieilles choses imaginaires, leurs balivernes. On ne dit rien de cela dans les livres d'histoire. Comment pourrait-on parler de ces sortes de mystères miraculeux devant lesquels on ne peut que s'émouvoir en silence et remercier je ne sais qui. Baba Maïdou Kou Selei Selei de rappeler quelques évidences que l'on perd trop souvent de vue, submergées qu'elles sont par la cacophonie du monde dans lequel nous sommes bien forcés de vivre. D'abord, il faut se garder de confondre l'importance des choses avec le bruit qu'elles font. Une sottise, une futilité, un mensonge entendu par 10 millions de personnes n'en reste pas moins ce qu'ils sont. A l'inverse, imaginez Jésus contant ses paraboles dans les villages de Palestine. Combien ont entendu sa voix ? Sur telle place publique, tel coin de rue, telle ombre d'arbre. Je suppose qu'à 20 pas de lui, des gens devaient tendre l'oreille, ne comprendre qu'un mot sur deux, mais ce qu'il disait, quoiqu'à peine audible, avait assez de force vivante pour nourrir le monde entier. Et le monde en a été nourri. L'importance d'une parole se mesure à la place qu'elle prend durablement en chacun de nous, à ce qu'elle fait bouger en nous, à la terre intime qu'elle remue et fertilise. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui harcelés par un incessant fracas de nouvelles, de modes, d'événements dont on nous affirme hautement entre deux messages publicitaires la catastrophique gravité avant que ne lui succède, dès l'aube du lendemain, l'annonce tout aussi démesurée du triomphe de tel chanteur, de la mort de tel couturier ou des aventures conjugales de tel président. Nous ne nous entendons plus imaginer qu'un ange, qu'un esprit d'arbre ou de rivière à supposer qu'il existe, veuille nous dire quelque chose. Comment pourrait-il y parvenir ? Toutes les lignes de notre entendement sonnent sans cesse occupées. Sans cesse nous sommes tirés hors de nous par mille bruits, lumières, images, plus ou moins terribles, dont nous ne pouvons rien faire, sauf de l'euphorie sportive et de l'angoisse de bombarder. Alors, que pèse le compte, dans ce tumulte ? Que pèse une pomme face à la famine ? Dans le monde, rien. Dans la vie, pour celui qui la mange, elle peut être un miracle, l'aube d'une renaissance. Entre l'ampleur et l'intensité, il faut choisir le goût de l'ampleur. Surtout que rien ne nous échappe, disperse notre attention et nous condamne à naviguer à la surface des choses. L'intensité, elle, nous limite, mais peut nous permettre d'aller profond. Ce qui nous pousse au monde est ample. Le désir de vie peut être intense. Le monde est la vie. Ne pas confondre. Ce n'est pas parce que la bouteille prend la couleur du vin et le vin la forme de la bouteille qu'il nous faut prendre l'un pour l'autre. Je connais des adolescents qui découvrent autour d'eux le monde, qui s'indigne de ses injustices, de ses folies meurtrières et qui décide que la vie est abominable. Ce ne serait qu'une confusion parmi d'autres si celle-là ne pouvait pousser les plus vulnérables de nos enfants au désespoir et au suicide. Le monde est certain lieu inhospitalier dont nous faisons trop souvent, pour notre malheur, un dépotoir. La vie, c'est autre chose. Au coin de mon immeuble, sur le trottoir, une touffe d'herbe s'effrayait un passage dans une fente de béton. La vie, c'est ça, une incessante poussée vers le haut. L'inverse de la pesanteur, en quelque sorte. Une impatience, une force qui sans cesse nous attire, qui nargue la mort, qui la nie même, qui la repousse tous les jours, à demain. La vie, c'est le désir de perpétuer notre présence au monde. C'est aussi notre relation aux choses. C'est notre appétit, notre envie de ne pas en démordre. Or, les contes sont des nourritures. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, à apaiser nos famines. Tous les arts devraient, à mon avis, y concourir. J'irais même, pour peu que l'on me pousse, jusqu'à estimer traître tout artiste qui ne sert pas, qui n'exalte pas la vie. Mais restons au compte. Art populaire, primitif, art premier, au sens que l'on donne aujourd'hui à ce terme. Il faut ici préciser les contours de ce que j'entends par littérature orale. La hiérarchie communément admise place au plus haut les mythes. Il magnifie parfois l'histoire, le Christ par exemple, dans la mesure où il est le fils d'un dieu ou d'une mortelle, s'inscrit dans la lignée des héros civilisateurs. Les mythes les plus universels sont cependant les récits de la création ramenés en transe de l'invisible par les familiers des esprits ou des dieux. Ils furent les premiers et longtemps les seuls à connaître les livres. Ils sont fondateurs de religions et donc les dévots les considèrent comme des vérités révélées, le mot mythe étant réservé aux croyances des autres. Pour un juif, pour un chrétien, la Genèse est une vérité révélée et la création du monde, selon les Indiens Hopi, un mythe. Mais laissons ces œuvres fondatrices à leur aristocratique auteur, elles sont hors de notre sujet. Un mot tout de même des légendes. Elles se distinguent des contes en ce qu'elles s'enracinent généralement dans une réalité historique ou géographique. Les contes, les plus connus, les plus estimés aussi, sont les contes dits merveilleux, ceux qui commencent presque toujours par l'intemporel. Il était une fois. Le Petit Poucet, Cendrillon, Blanche-Neige, Peau d'Âne et bien d'autres sont de ceux-là. D'où viennent-ils ? Qui les a mis au monde ? On a à ces questions aucune réponse assurée. On sait seulement qu'ils sont universels, ce ne sont pas des récits réalistes. Ils ne s'inscrivent que vaguement dans la réalité des siècles ou des lieux qu'ils traversent. Les fées, les lutins, les animaux doués de parole et autres donateurs plus ou moins évanescents y sont comme chez eux. La présence quasi constante de ces peuples de l'au-delà, des apparences, suggère que ces récits sont nés de gens pour qui le monde et la vie ne se limitaient pas à nos perceptions raisonnables. Sans doute s'enracine-t-il, pour ce qui concerne notre Occident, dans l'animisme pré-chrétien qui lui-même se perd dans la nuit des temps. À l'étage inférieur, les ethnologues ont coutume de loger les contes facétieux. Ce sont pour la plupart des comédies brèves, de farces. Ils n'ont pas la dimension poétique, universelle, des contes merveilleux, bien que l'on puisse y rencontrer des fées et des sorcières. Ils sont plus volontiers ancrés dans la patte humaine, dans les mœurs populaires. Brigands et sots, rusés, débrouillards, juges, soldats, fermières, délurés. Tels sont les héros de ces histoires-là. Il est à noter qu'elles véhiculent souvent une sagesse qui, pour être rieuse, n'en est pas moins parfois d'une déconcertante profondeur. d'increvables fous du peuple en témoignent. Jean-Bette, Chenou, Ra, Odja, Nasreddin et des dizaines de leurs réincarnations autour de la Méditerranée sont les héros d'une folie tant éclairante qu'il sait toujours trouver des maîtres éveilleurs pour en faire leur miel. Sont d'abord les véhicules d'une nourriture et non pas seulement d'informations plus ou moins ethnologiques, de naïveté primitive ou de recettes psychologiques. On peut bien sûr les analyser, les interpréter, tenter de découvrir ce qu'ils ont dans le ventre. On ne s'en prive d'ailleurs pas. C'est là une démarche d'intellectuel évidemment honorable et utile, mais elle a le défaut de trop souvent négliger cela, que ces vieilles histoires ne sont pas faites pour informer, même pas pour instruire, mais pour nourrir. D'éminents professeurs s'appliquent à découvrir de quoi sont faits les contes. Leurs travaux, aussi intéressants soient-ils, ne devraient pas nous faire oublier qu'on ne saurait se nourrir d'une formule chimique. La formule chimique du pain ne nourrit pas, disait Idrish Shah. Les contes veulent être mangés béatement et donner ce pourquoi sont faits les aliments, de la force, de la vie. J'admets que l'on veuille savoir comment ils font, comment ils s'y prennent et qu'il soit frustrant de l'ignorer. On peut pourtant aller à leur rencontre par d'autres chemins d'exploration. Cela laisse certes l'intellect insatisfait, mais l'intellect n'emplit pas à lui seul la maison du dedans. Nous hébergeons aussi une intelligence sensible, amoureuse, joueuse. Ce n'est pas sérieux, admettons. J'invite seulement à réfléchir un instant à ce que l'on demande vraiment quand on exige du sérieux. Ne serait-ce pas quelque chose qui ressemble à une garantie contre l'errance, à une assurance tout risque ? L'intellect voudrait que la vie ne soit qu'une énigme alors qu'elle est un mystère. On peut résoudre une énigme, la vaincre et ne laisser qu'une rassurante lumière là où étaient des ombres. On ne peut qu'explorer un mystère sans espérer l'abolir. Explorons donc. Les peuples dits primitifs considéraient assez communément les contes comme des êtres vivants. Il m'a été rapporté que les Indiens de la cordillère des Andes estimaient qu'ils étaient semblables à des oiseaux, que seuls pouvaient voir ceux qui percevaient l'au-delà des apparences. Ils sont, disaient-ils, amenés par le vent dans les villages, ils nichent dans les arbres comme de vrais oiseaux. Ils viennent parfois se percher sur la tête d'un homme. Cet homme croit qu'il se souvient d'une histoire, mais non, c'est l'histoire qui a faim d'être entendue. Elle fait partie, comme nous, de la chaîne de la vie. Elle désire être nourrie des mots afin de prendre les forces dont elle a besoin pour aller plus loin. Dans d'autres villages, chez les Indiens cris, Il en va à peu près de même. L'ethnologue Howard A. Norman raconte qu'un jour d'hiver, comme il accompagnait un groupe d'hommes à la chasse, ils ont découvert sur la neige un massacre d'une dizaine de corbeaux. Ils étaient là, sanglants, déchirés. Les chasseurs, se sont demandé ce qu'ils avaient bien pu leur arriver. Ils sont restés longtemps perplexes, puis l'un d'eux a dit aux autres « Laissez tomber, une histoire passera par là, et elle nous racontera ce qui est arrivé. » Ainsi, pour ces gens, les histoires sont des êtres plus savants, plus finement perceptifs que nous. En Afrique, on considère également le conte comme une entité douée d'une force propre. Interrompre son récit porte malheur au perturbateur, et le conteur s'empresse de prévenir l'esprit du conte de se justifier auprès de lui afin d'éviter toute représaille. Ce n'est pas moi qui t'ai coupé, s'il te plaît. Ne me coupe pas. J'ai parlé tout à l'heure du fatum librorum romain, du destin des œuvres. Ne faut-il pas qu'elles soient douées de vie, de force pour trouver leur chemin vers ceux qu'elles doivent nourrir ? Ne faut-il pas qu'elles soient quelque peu parentes de la touffe d'herbe qui parvient au jour, malgré l'obstacle du béton ? Je vous avais promis une grande histoire, et bien la voilà, elle va nous occuper le reste de cette heure de conte, toujours en compagnie de Doé sur Canal B pour les 40 ans de la même radio. Et bien cette histoire s'intitule Gigotte, les souliers usés. Le premier chapitre, on va commencer par le début, ce sera bien. On l'appelle le parrain. Il est très riche et très puissant. Ouais, je suis très riche et très puissant. Tout le monde a peur de moi, alors tout le monde m'obéit. Il vit dans une très grande maison plantée dans un très grand parc, non loin de la grande, la très grande ville, à l'orée de la grande, la très grande forêt. Des hommes très costauds avec de grosses lunettes noires devant les yeux gardent la grande, la très grande maison du parrain. Mais depuis quelque temps, le parrain est inquiet. Oh, pas pour lui. Ses affaires marchent bien, très bien même. Mais pour sa fille, la radieuse Gigotte. Depuis qu'elle est née, il l'a gâtée, sa princesse chérie. Il ne lui a jamais rien refusé. Il a toujours dit oui à ses moindres caprices. Il a satisfait tous ses désirs et plus encore. Lorsqu'elle désirait un adorable petit chaton pour son anniversaire, il lui en offrait 50, tous plus mignons les uns que les autres. Lorsqu'elle demandait un éclair au chocolat pour son goûter, le pâtissier lui en préparait un de la taille d'un autobus. Lorsqu'elle commandait un ballon à Noël, elle trouvait au pied du sapin, juste à côté du ballon, la meilleure équipe de football du monde pour jouer avec elle. 11 joueurs, autant de remplaçants, un entraîneur et un soigneur. À cette époque, la vie était facile. Le parrain faisait ses affaires et Gigotte faisait son enfant. Mais Gigotte a grandi et son pauvre papa ne l'a pas vu grandir. Gigotte est une jeune fille et désormais, elle a des secrets bien à elle, qu'elle ne veut dire à personne, surtout pas à son père. Un secret en particulier qui donne bien du souci à son papa. En effet, chaque matin, elle se réveille avec, au pied, des souliers complètement usés. Alors son papa lui demande « Mais que se passe-t-il, Gigotte ? Pourquoi tes souliers sont-ils tous les matins usés ?» C'est un secret. Mais tu n'as pas de secret pour moi, Gigotte. Mais bien sûr, inutile d'insister, je ne te dirai rien, papa. Mais enfin, Gigotte, ma petite princesse, toute cette histoire m'inquiète. Mais lâche-moi un peu. Laisse-moi vivre ma vie, je suis grande maintenant. Occupe-toi de tes affaires. Et Gigotte retourne dans sa chambre en claquant toutes les portes qu'elle trouve sur le chemin. Et elles sont nombreuses, les portes, dans la grande, la très grande maison du parrain. Le parrain est très en colère contre sa fille. Pourtant, il l'aime très fort, sa Gigotte. Alors, il demande à Pépin, le cordonnier de la grande ville, de lui confectionner des souliers neufs. Il ne peut tout de même pas laisser sa fille aller par la ville des souliers usés aux pieds. Ce ne serait pas digne de son rang de fille du parrain. Mais le parrain est aussi têtu que sa fille. Alors il a une idée de parrain pour mettre à jour ce mystère. Il va la faire surveiller. Il confie cette charge à un des hommes les plus aguerris de ses gardes rapprochés, Traon. Traon, tu sais que tu es l'homme en qui j'ai le plus confiance. Oui, chef. J'ai une mission délicate pour toi. Oui, chef. Tu connais Gigotte, ma fille. Tu l'as vu grandir dans cette maison. Tu es comme moi, tu ne veux que son bien. Oh, bah oui, chef. Je vais te demander une chose que je ne demanderai à personne d'autre. Et tu sais pourquoi, Traon ?
Bah non, chef.
Parce que j'ai confiance en toi.
D'accord.
Ce soir, tu surveilleras Gigotte. Je veux que tu découvres le secret qu'elle refuse de me révéler. Tu as bien compris ?
Oui, chef, surveiller Gigotte.
Et
découvrir son secret.
Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, le soir venu, le garde du corps surveille l'entrée de la chambre de la jeune fille. Il ne se passe d'abord pas grand-chose. L'homme s'ennuie et commence à bâiller aux corneilles. Pourtant, lorsqu'il regarde à travers le trou de la serrure, il assiste à une scène étonnante. Gigotte fait la folle devant son miroir, au son d'une musique bien étrange, en hurlant des paroles encore plus étranges. « Mais papa, lâche-moi! Papa, lâche-moi !» Bientôt, les 12 coups de minuit sonnent, la porte de la chambre s'ouvre soudain pour laisser passer une Gigotte pressée. La jeune fille, tel un courant d'air, court dans les longs couloirs de la très grande maison. Ses souliers luisent comme un sou neuf. Le garde du corps la suit comme il peut. Bientôt, Gigotte franchit la grande porte de la maison. Elle court maintenant dans le grand parc. Le garde du corps est toujours à la peine, à quelques encablures de la demoiselle. Elle franchit maintenant le grand portail du parc avant de s'enfoncer dans la sombre forêt. Le garde la suit comme il peut, mais il n'a plus ses jambes de 20 ans et il comprend qu'il perd du terrain. Il suit néanmoins le chemin qui traverse la forêt, mais au bout du chemin, il doit admettre qu'il a perdu la jeune fille. L'homme n'a pas l'habitude de s'égarer dans la forêt. Il essaie d'écouter le moindre bruit de pas pour comprendre dans quelle direction est partie la jeune fille. Mais ce qu'il entend ne le rassure pas du tout. La chouette ulule, et Traon imagine que c'est le loup qui hurle. Il frissonne. Il n'ose pas se dire qu'il a peur. Après tout, il n'est pas le gardien de la forêt, il garde une jeune fille, ce n'est pas tout de même la même chose. En temps normal, les jeunes filles, ça vit dans les maisons et ça n'en bouge pas. Mais pas Gigotte. Tiens, voilà qu'il entend une chanson lointaine. Il tend l'oreille pour essayer de savoir ce que raconte cette chanson. Il saisit au vol quelques paroles éparses auxquelles il tente de redonner un semblant d'ordre. Ce n'est pas ce soir qu'il découvrirait le secret de Gigotte. Mais au moins, demain matin, il aurait quelque chose à raconter au parrain. Matin, après quelques heures de sommeil, le garde du corps retrouve le parrain dans la grande salle de la très grande maison. Le parrain lui demande alors ce qu'il a découvert. L'homme lui répond en feignant l'enthousiasme. « Eh ben, j'ai découvert une chose importante, hein, très importante hein. !»« Ah oui, et quoi donc ?» demande le parrain méfiant. « Eh bien, que Gigotte quitte sa chambre chaque nuit, au 12e coup de minuit. » « Et c'est tout. »« Qu'elle quitte la maison pour aller dans le parc de la maison. » Et c'est tout. Bah, qu'elle quitte le parc de la maison pour aller dans la forêt. Et c'est tout. Bah, c'est déjà beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est presque rien. Mais ce n'est pas tout à fait tout. Comment ça, ce n'est pas tout à fait tout? La jeune fille court très vite. Je l'ai perdue dans la forêt. C'est donc tout ce que tu as découvert? Non. J'ai entendu une chanson.
Une chanson?
Bah oui, une chanson. Et que raconte cette chanson?
Je ne suis pas tout à fait sûr, il faisait nuit et le loup hurlait à la mort.
Mais voilà bien longtemps qu'il n'y a plus de loup par ici.
Ou alors un terrible animal, en tout cas, il s'agissait d'un cri terrifiant.
Passons, dis-moi ce que tu as cru entendre.
Je crois avoir entendu cela. Ça sent fort la poubelle et le poisson pané, et le poisson pané.
Ça sent fort la poubelle et le poisson pané, mais qu'est-ce que tu me racontes, bougre d'imbécile?
C'est ce que j'ai cru entendre, chef.
Je crois surtout que tu es un incapable. Ce soir, je demanderai à un autre garde du corps de te remplacer. Après quoi, le parrain demande à sa fille de venir le voir. Il lui montre ses souliers usés et la somme de lui révéler enfin son secret.
Mais c'est un secret.
Et le secret, ça ne se dit pas.
Mais pourquoi, Gigotte? Tu n'as donc pas compris que je n'étais plus une petite fille? Mais tu seras toujours ma petite fille.
Je serai toujours ta fille, mais avec sa vie
à elle. Alors lâche-moi, s'il te plaît.
Pépin le cordonnier arrive avec les souliers neufs. Dis donc Pépin, tu pourrais me faire des souliers avec des semelles plus solides. Comme cela, tu ne serais pas obligé de te lever tôt chaque matin pour m'en confectionner une nouvelle paire.
Oui, mais si je faisais ça, je ne te verrais plus chaque jour.
C'est vrai, et ce serait dommage de ne plus voir, de ne plus papoter, de tout et de rien, et de ne plus boire un thé ensemble.
Tu as raison.
Continue comme ça, Pépin. J'aime bien te voir le matin.
Tu es toujours de bonne humeur, toi. Ce n'est pas comme mon père. C'est parce que je te vois, gigote. Allez, ne raconte pas de bêtises. Et viens boire ce thé.
Le parrain convoque le deuxième homme le plus aguerri de sa garde rapprochée pour lui demander de surveiller sa fille. Dorn, tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui ?
Non, chef.
C'est parce que Traun est un imbécile, Dorn. C'est donc toi qui le remplaces sur cette mission.
D'accord, chef.
Tu vas réussir là où cet imbécile de Traun a échoué.
Compris, chef.
Tu connais Gigotte, ma fille. Tu l'as vu grandir dans cette maison. Tu es comme moi, tu ne veux que son bien.
Ouais, chef.
Ce soir, tu la surveilleras. Je veux que tu découvres le secret qu'elle refuse de me révéler. Tu as bien compris ?
Oui, chef, surveiller Gigotte.
Et
découvrir son secret.
C'est bien, Dorn. C'est la chance de ta vie. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé et tu prendras la place de Traun.
Reçu 5 sur chef. 5, chef. Hein.
Alors, le soir revenu, le garde du corps est posté non loin de la chambre de la jeune fille. Il ne se passe d'abord pas grand-chose. L'homme s'ennuie et commence à bâiller aux corneilles. Pourtant, lorsqu'il regarde à travers le trou de la serrure, il assiste à une scène étonnante. Gigotte fait la folle devant son miroir au son d'une musique bien étrange, en hurlant des paroles encore plus étranges.
« Papa, lâche-moi ! Papa, papa, lâche-moi !»
Bientôt, lorsque les 12 coups de minuit sonnent, la porte de la chambre s'ouvre soudain pour laisser passer une Gigotte pressée. La jeune fille, telle un courant d'air, court dans les longs couloirs de la très grande maison. Ses souliers luisent comme un sou neuf. Dorn la suit comme il peut. Bientôt, Gigotte franchit la grande porte de la maison. Elle court maintenant dans le grand parc. Le garde est toujours à la peine, à quelques encablures de la demoiselle. Elle franchit maintenant le grand portail du parc avant de s'enfoncer dans la sombre forêt. Le garde suit comme il peut, mais il n'a plus ses jambes de 20 ans et il comprend qu'il perd du terrain. Il suit néanmoins le chemin qui traverse la forêt, mais au bout du chemin, il doit admettre qu'il a perdu la jeune fille. L'homme n'a pas l'habitude de s'égarer dans la forêt. Il essaie d'écouter le moindre bruit de pas pour comprendre dans quelle direction est parti Gigotte. Mais ce qu'il ressent ne le rassure pas du tout. La chauve-souris vole dans tous les sens et le garde croit que c'est un dragon qui tente de l'attraper. Il se jette dans un trou en tremblant de tous ses membres. Lui aussi est effrayé par la nuit. Après tout, il n'est pas le gardien de la forêt. Il garde une jeune fille, ce n'est tout de même pas la même chose. En temps normal, les jeunes filles, ça vit dans les maisons et ça n'en bouge pas. Mais pas Gigotte. Tiens, voilà qu'il entend une chanson lointaine. Il tend l'oreille pour essayer de savoir ce que raconte cette chanson. Il saisit au vol quelques paroles éparses auxquelles il tente de redonner un semblant d'ordre. Bon, ce n'est pas ce soir qu'il découvrirait le secret de Gigotte, mais au moins, demain matin, il aurait quelque chose à raconter au roi. Après quelques heures de sommeil, le garde du corps retrouve le parrain dans la grande salle de la très grande maison. Le parrain lui demande alors ce qu'il a découvert. Le garde répond en feignant l'enthousiasme.
« Oh, j'ai découvert une chose importante, hein, très très importante. Hein. »«
Ah oui ? Et quoi donc ?» demande le parrain méfiant.
« Eh bien que Gigotte quitte sa chambre chaque nuit au 12e coup de minuit. »«
Bah, je le savais déjà. »«
Bah ouais, mais qu'elle quitte la maison pour aller dans le parc. Hein. »
Ça aussi, je le savais.
Qu'elle quitte le parc pour aller dans la forêt. Hein.
Mais ça aussi, je le savais.
Ouais, c'est déjà beaucoup. Hein.
Non, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est rien.
Mais ce n'est pas tout à fait tout. Hein.
Comment ça, ce n'est pas tout à fait tout?
Ah bah ouais, la jeune fille court très vite. Ben, je l'ai perdue dans la forêt.
C'est donc tout ce que tu as découvert?
Non, j'ai entendu une chanson.
Toi aussi?
Ouais.
Et que raconte donc cette chanson?
Bah, je suis pas tout à fait sûr, hein. Il faisait nuit, puis le dragon me poursuivait.
Mais voilà bien longtemps qu'il n'y a plus de dragon par ici.
Ouais, bah, ou alors un terrible animal. En tout cas, il s'agissait d'un animal terrifiant. Hein.
Passons, dis-moi ce que tu as cru entendre.
Bah, je crois avoir entendu cela. L'éléphant mange le miel et le fromage râpé. Et le fromage râpé.
L'éléphant mange le miel et le fromage râpé. Mais qu'est-ce que tu me racontes, bougre d'imbécile?
C'est ce que j'ai cru entendre, hein, chef.
Je crois surtout que tu es un incapable. Si je veux caresser l'espoir de découvrir un jour le secret de Gigotte, je vais devoir trouver une autre idée. Alors le parrain se gratte la tête. Oh, pas longtemps. Il a son idée. Il convoque à nouveau sa fille. Il lui montre encore une fois ses souliers usés et lui demande de révéler son secret. Mais une fois encore, elle refuse. Pépin, le cordonnier, arrive avec les souliers neufs. Mais comme le parrain parle à sa fille, il reste derrière la porte à attendre la fin de la conversation.
Gigotte, je suis ton père et je dois connaître ton secret. On se moque de moi. Tout le monde raconte que tu me mènes par le bout du nez. Ce n'est plus possible.
Ce n'est pas très grave. Je suis désormais grande et tu n'es pas obligé de tout savoir de moi.
Eh bien, figure-toi que si. Si tu sais ce que je vais faire, dans 2 jours, partout dans la ville, des affiches annonceront que tu te marieras avec l'homme qui découvrira ton secret. Comme cela, je suis sûr et certain de le découvrir, ton fameux secret.
Fais comme tu veux, papa, mais ça ne changera rien pour moi.
Pépin a tout entendu. Pourtant, il ne dit rien lorsqu'il tend les souliers neufs à la princesse. Un brin de papotage et une théière plus tard, le voilà de retour chez lui. C'est décidé, ce soir, c'est lui qui surveillerait Gigotte. Il en est éperdument amoureux et il sait que dans 2 jours, lorsque les affiches apparaîtront dans tout le royaume, il sera trop tard. C'est lui qui, avant les autres, découvrirait le fameux secret. Pépin a fermé sa boutique. Le soir est déjà là, alors il marche dans les rues de la grande, de la très grande ville en direction de la grande, de la très grande maison du parrain. Il se poste non loin du portail du parc de la maison et il attend. Le temps ne passe pas très vite. Il voit bien de temps en temps une lumière s'allumer puis une autre s'éteindre. Mais rien de plus. Il s'assoupit un peu. Mais voilà que sonnent les 12 coups de minuit. Bientôt, il aperçoit une ombre glisser dans le parc en se dirigeant vers le portail. C'est elle, il en est sûr. Elle passe tout près de lui, tel un courant d'air. Ses souliers luisent comme un sou neuf. Le cordonnier s'élance alors à sa poursuite. Elle court maintenant dans la forêt. Il court à perdre haleine. Pourtant, il ne parvient pas à la suivre. Il suit le chemin qui traverse la forêt, mais au bout du chemin, il doit admettre qu'il a perdu la princesse. L'homme n'a pas l'habitude de se garer dans la forêt.
Il essaie d'écouter le moindre bruit de pas pour comprendre dans quelle direction est parti. Gigote, mais il comprend qu'il est déjà trop tard. Elle a filé sans l'attendre. Pourtant, il entend une chanson lointaine. Il tend l'oreille pour essayer de savoir ce que raconte cette chanson. Il saisit au vol quelques paroles éparses auxquelles il tente de redonner un semblant d'ordre. « C'est en poussant le ciel que je l'ai fait tomber. » Ou bien encore, « J'ai mis cent arc-en-ciel au fond de mon panier. » S'il entend une chanson, c'est que Gigote n'est pas bien loin et qu'elle repassera par là un peu plus tard. Il décide donc de l'attendre. Mais le jeune homme est fatigué. Alors il s'endort au pied d'un arbre. Dès que le jour se lève, Pépin est réveillé par la fraîcheur matinale. Il se lève, engourdi par cette nuit passée à la belle étoile. Ses pas le guident vers un sentier étroit qui continue jusqu'à la réchauffer. Il tourne autour du dolmen avant de s'asseoir sur la souche d'un arbre mort. Plus il y pense et plus il est sûr et certain que c'est là qu'il doit être pour parvenir à savoir ce qui se passe dans les nuits de Gigote. D'ailleurs, il voit venir Plume, une petite fée qui s'adresse aussitôt à lui. « Que viens-tu faire dans les parages, Pépin ? Tu connais mon nom ? Bah, tout le monde le connaît, si. Gigote nous parle souvent de toi et je dois dire que tu sembles aussi charmant qu'elle nous l'a dit. Mais tout ça ne nous dit pas ce que tu viens faire à la réchauffer. Bah, je veux connaître le secret de Gigote. Voilà pourquoi je suis ici. Et comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Bah, hier soir, j'ai suivi Gigote pour savoir où elle allait, mais tu l'as suivi sans qu'elle le sache. Bah, je désire tant connaître son secret. Et tu lui as demandé de te le révéler ? Bah non, non, mais je suis sûr qu'elle aurait refusé. Elle ne veut pas le dire à son père, le parrain, alors à moi. Mais tu n'es pas son père, peut-être qu'à toi elle l'aurait dit. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais plus. Aide-moi la fée. Pourquoi désires-tu connaître son secret ? Bah, je suis très amoureux d'elle, et pour avoir une chance d'avoir son amour, je dois le découvrir avant tout le monde. Si ton amour est sincère, tu le découvriras. Reviens ici ce soir, avant la nuit tombée. Je te permettrai de savoir ce que tu veux savoir. La journée est interminable pour Pépin, il n'a pas la tête à son travail. Alors il fait n'importe quoi. Il doit livrer des ballerines aux petits rats de l'opéra. Au lieu de cela, il leur apporte des grosses bottes de pompiers. Il livre les ballerines aux clowns du cirque et les très longues chaussures de clown aux pompiers. En un mot, il fait tout de travers. Mais lorsque le soir arrive, il quitte hâtivement son atelier pour rejoindre la réchauffée. Plume, la petite fée, l'accueille joyeusement. Ah, je vais te transformer en lampe, comme cela. Tu verras tout ce qui se passera cette nuit à la réchauffée. Ton écoutille, ton écouta, en lampe, transforme-toi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pépin est devenu une lampe. Dans la petite flamme allumée, ses yeux peuvent en effet tout voir sans que personne ne se doute de sa présence. La nuit a recouvert la clairière de son manteau sombre. Des lumignons donnent à la scène des allures de scène de théâtre. Les fées engagent une ronde autour du grand dolmen en chantant à tue-tête. Des jeunes femmes arrivent de tous côtés et les rejoignent dans la ronde. Peu après les 12 coups de minuit, c'est Gigote qui arrive pour rejoindre la ronde. Elle danse et elle chante comme les autres. C'est en dansant les fées tous les jours de l'année, tous les jours de l'année. On est libre comme l'air et l'on use nos souliers. Le voilà le secret de Gigote. Chaque nuit, elle danse encore et encore. Et chaque nuit, elle use ses souliers en piétinant le sol autour du dolmen. Les fées et les jeunes femmes réunies s'amusent toute la nuit. Elles sont heureuses. Elles n'ont d'autre souci que de danser à perdre haleine et de chanter à l'unisson. Quel merveilleux spectacle! Mais lorsque le petit matin approche, Gigote salue la compagnie. Plume s'approche d'elle avec la lampe magique. « Prends cette lampe, Gigote. » Il fait encore nuit. La jeune fille prend la lampe et s'engouffre dans la forêt pour rentrer chez elle. Mais bientôt, le jour pointe le bout de son nez, alors Gigotte souffle sur la petite flamme. En s'éteignant, la lampe libère Pépin qui apparaît face à la jeune femme.
Mais Pépin, qu'est-ce que tu fais là?
J'ai découvert ton secret, Gigotte.
La belle affaire, mais pourquoi tenais-tu absolument à le connaître?
Je crois bien que je suis amoureux de toi, quoi.
Moi aussi je t'aime, Pépin.
Mais nous avons bien le temps de nous aimer.
Tu as raison, mais le parrain a décidé d'offrir ton amour au premier qui découvrirait ton secret, alors...
Je veux bien que tu révèles mon secret à mon père, mais à une condition.
Dis-moi, laquelle?
Si un jour, nous nous marions, je veux que tu me laisses aller danser avec les fées dès que j'en aurai envie.
Pas de problème, vous avez l'air de si bien vous amuser.
C'est toi qui décides, hein.
Eh bien, dans ce cas-là, allons annoncer la nouvelle à papa. Je ne sais pas s'il sera ravi, mais tant pis pour lui. Comme tu me l'as dit, c'est moi qui décide.
Le parrain est un homme qui veut avant tout le bonheur de sa fille. Le plus important pour lui, c'est de connaître le secret de Gigotte. Alors, lorsque les deux jeunes gens lui révèlent le pourquoi du comment, il se met à rire à gorge déployée. Pour le mariage, on verrait plus tard. Mais il avait hâte de voir comment sa fille dansait. Alors il organise une grande fête. On vint de très loin pour y assister et ce fut une grande fête. Les fées étaient là pour mener le bal. Cette nuit-là, tous les gens de la ville usèrent leurs souliers à force de danser. Et toutes les femmes, les jeunes comme les moins jeunes, s'égosillèrent en chantant la chanson des fées. C'est en dansant les fées tous les jours de l'année, qu'on est libre comme l'air, mais qu'on use nos souliers. Ce à quoi les hommes répondirent, c'est en chantant les gars, tous les jours de l'année, on n'est pas plus malin, mais on fête l'amitié. C'en est terminé de cette heure de direct sur Canal B pour l'anniversaire, pour les 40 ans. On va retrouver dans quelques instants l'émission Zana Yayoué. Moi, je vous dis salut, puis vous retrouve aux horaires habituels. C'est le mercredi après-midi et puis le dimanche matin pour le petit quart d'heure de contrat. Ciao, bye bye. C'était Doé qui vous racontait une histoire.